Bonjour. À propos de la famille, j'avais avec vous réfléchi la semaine dernière à ces amours brisés, à ces foyers, ces couples déchirés, en essayant de voir comment le Christ nous permettait de faire face à ces tragédies de l'existence humaine, à ces malheurs. Et comment ainsi on pouvait peut-être voir, deviner, au terme d'un chemin, une bénédiction, un bonheur qui vient de Dieu, même lorsqu'il est traversé par l'épreuve inéluctable de toute existence. Mais aujourd'hui, je voudrais continuer dans cette même ligne, en parlant d'une autre relation essentielle dans la vie familiale, celle des parents par rapport à leurs enfants, du père et de la mère par rapport à leurs enfants. S'il faut faire la réciproque, c'est-à-dire des enfants à l'égard de leurs parents, je le verrai en réfléchissant avec vous. Tout d'abord, y a-t-il dans l'Évangile un enseignement là-dessus? Oui, mais Jésus se contente apparemment de reprendre l'enseignement de la volonté divine. Honore ton père et ta mère, c'est l'un des commandements de Dieu. Et il fait un commentaire à l'occasion, mais vraiment à l'occasion, parce que ça paraît tellement évident et normal dans le contexte où il enseigne, que ça n'est guère mis en contestation. Peut-être peut-on relever, par exemple, les propos où il dénonce ceux qui se libéreraient de leurs obligations à l'égard des parents en prétextant que les biens qu'ils devraient leur consacrer sont consacrés à Dieu. Nous trouvons cela dans le chapitre 23e de saint Matthieu. Mais, d'une manière générale, on voit apparaître assez fortement des figures paternelles comme des figures maternelles dans l'Évangile, qui nous décrivent une certaine manière d'être père et d'être mère. Si vous voulez, essayons de les passer en revue pour voir un peu comment les choses se présentent. Eh bien, je les cite un peu près au hasard, mais vous avez d'abord une parabole célèbre que Saint-Luc nous rapporte au chapitre 15e, versets 11 à 32. C'est celle des deux fils. Le fils prodigue, celui qui dilapide l'héritage, et le fils fidèle qui reste auprès du père. Et dans cette parabole, Jésus nous décrit un portrait de l'attitude de la paternelle qui est admirable, de bonté, de désintéressement, de fidélité à l'amour donné, d'un père plein de miséricorde et d'attention, et en même temps de justesse spirituelle. Et puis nous avons encore des figures paternelles à plusieurs reprises dans les paraboles. Il y a celle des deux fils envoyés à la vigne, qu'on trouve dans ce que saint Matthieu nous cite, dans le chapitre 21e, versets 28 à 32. Vous savez, le père envoie ses fils travailler à sa vigne. L'un dit « j'y vais, il n'y va pas ». L'autre dit « non, mais il y va ». Lequel des deux a fait la volonté du père? Là, il n'y a rien d'autre que la question posée de la mission reçue du père par le fils pour travailler à la vigne. Mais vous voyez que d'ici, dès à présent, vous commencez à deviner peut-être ce qui va être le fil conducteur de toutes ces manières, de tous ces passages où Jésus évoque une figure paternelle. Nous l'avons par exemple encore dans le fils et les vignerons homicides, une parabole qui est citée par les trois synoptiques, qu'elle se trouve également au chapitre 21e de saint Matthieu. Et puis, dans saint Matthieu, toujours, dans le sermon sur la montagne, lorsque Jésus nous invite à faire preuve d'un amour du prochain sans limite, il nous explique que nous serons ainsi à l'image de notre Père des cieux, qui lui est bon pour ses enfants, même s'ils sont mauvais. Vous le voyez, ce qui guide le fil conducteur de l'usage que Jésus fait de ces paraboles, dans ces paraboles de la figure paternelle, c'est qu'au fond, il nous parle de Dieu son Père. C'est exactement comme si il y avait une inversion du chemin habituel de notre raisonnement. Nous partons de l'expérience humaine pour essayer ensuite de nous imaginer quelque chose de Dieu. On dira, ben voilà, on sait ce que c'est qu'un père, et puis Dieu est comme un père, mais il est plus ou autrement qu'un père humain. Dans l'esprit de Jésus, dans sa manière d'enseigner, c'est comme si les choses se présentaient exactement à l'envers. C'est-à-dire, ce qui est premier, c'est Dieu lui-même, l'unique, que Jésus appelle Père, Abba, Papa même, mon Père, dont il dira aux apôtres, votre Père, dont il dira à ses disciples, vous pouvez devenir les fils du Très-Haut, les enfants du Très-Haut. Et il ajoutera, quand il nous apprendra à prier, dites notre Père. Ce qui est donc premier, c'est la paternité divine, quelque chose dont nous n'avons, nous, qu'une idée très, très, très pauvre, et qui doit illuminer et éclairer la paternité humaine. Et on se rend bien compte de cela également dans le chapitre 7e, dans le sermon sur la montagne de Saint Matthieu, la fin, où on a ce petit enseignement sur la prière qui est quand même très intéressant. Alors là, c'est presque l'inverse qui joue. C'est peut-être une des rares fois où on voit ainsi l'image paternelle partir de l'expérience humaine. Je vous lis ce passage. C'est dans Saint Matthieu, au chapitre 7e, versets 7 à 11. « Demandez, et il vous sera donné, c'est-à-dire Dieu vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, frappez, et il vous sera ouvert. Dieu vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve, et à qui frappe il sera ouvert. » Et voici le passage pour lequel je vous cite, voici la phrase pour laquelle je vous citais ce passage. Quel est d'entre vous l'homme à qui son fils demandera du pain et lui donnera une pierre? Ou bien il demandera un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses, des dons excellents à vos enfants, combien plus votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc la fortiori ici n'est pas d'imaginer Dieu à l'image de la paternité divine, mais de dire, puisque vous, qui êtes mauvais, qui ne savez pas bien ce que c'est que d'être père, vous faites cependant des choses, si vous n'allez pas faire ça à vos enfants, voyons, ben, a fortiori, votre Père donnera-t-il les dons les plus hauts, et Saint Luc nous traduit pour être sûr que nous comprenions, l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Ainsi, cet exemple nous montre comme à revers que l'idée de paternité n'est pas prise dans la pensée de Jésus et la manière dont il nous parle, d'abord d'une certaine expérience humaine de la paternité, mais d'abord de sa relation à Dieu qui éclaire la paternité humaine. C'est très impressionnant. Hein. Et faudrait-il que nous réfléchissions sérieusement à la dimension éminemment divine et spirituelle d'une paternité humaine. Je dis humaine en opposition à animale. Car nous sommes là, bien sûr, à l'intersection du fait biologique, comme je l'ai déjà exposé à propos du mariage, de la sexualité, de l'engendrement, que connaissent toutes sortes d'espèces animales, toutes celles qui se reproduisent par de façon sexuée, ou chez les mammifères, disons, pour rester dans une zone biologique proche de l'espèce humaine, et de quelque chose de tout à fait différent d'autre, qui assume cette réalité, mais qui la transfigure. Ce qui fait qu'on comprend bien ainsi que c'est déshumaniser la notion même de paternité que de lui enlever cette référence divine qui constitue son originalité proprement humaine. C'est la traiter comme une paternité animale. Quelle est l'originalité d'un père humain? Ce n'est pas qu'il est un peu plus père que serait le babouin ou le chimpanzé, ou bien que, je ne sais pas moi, le verra pour les cochons, ou n'importe quel autre mâle des espèces animales. Ce n'est pas que les hommes auraient des mœurs particulières dans la manière dont ils se comportent, mais que la référence qui assume ce rôle, dont la racine biologique sont évidentes, est une référence divine, où l'homme, fait à l'image et à la ressemblance, trouve là comme la source de ce que nous appelons la paternité. Alors, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas ainsi une majoration de ce qui est ressenti aujourd'hui comme un rôle masculin au sens antagoniste du rôle féminin. Si Dieu est ainsi père, est-ce qu'une mère va trouver en Dieu la source et le modèle de sa fonction et de sa mission? Il y a là comme quelque chose qui parfois est ressenti dans certaines zones de notre société, de nos sociétés occidentales, comme presque un abus ou une exclusion, au point que, spécialement aux États-Unis, on est tenté de mettre au féminin tout ce qui est mis au masculin dans les textes de l'Écriture. On dira que Dieu est mère, qu'elle est, etc. En exprimant au féminin la réalité de la divinité telle qu'elle s'exprime dans le rôle paternel. Mais si vous voulez, nous continuerons ces propos la semaine prochaine.